au jardin botanique, peut-être avec elle, faire un tour avec les enfants. Puis on va voir qu'est-ce que le Seigneur va faire avec ça, n'est-ce pas? Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 27. J'ai quelques petites annonces pour vous et puis aussi une requête de prière. En fait, on va commencer ce matin à Matthieu 26. Simplement vous mentionner la réunion que nous avions annoncée la semaine dernière pour la réunion d'information pour les membres est annulée. On a besoin encore de certaines informations. Et donc, c'est possible que la semaine prochaine, on vous convoque. On va vous donner une semaine d'avis à chaque fois. On vous demande tout simplement de prier pour le conseil, prier pour que le Seigneur dirige. Alors ça, c'est une chose que je devais vous mentionner. Les signets, vous avez vu que les signets de lecture de la Bible, il y en a un petit peu partout sur les chaises. On a enfin imprimé maintenant seulement une centaine, puisqu'on restait avec un certain nombre de signets, puis on ne veut pas faire du gaspillage. Mais je veux vous encourager, si vous ne prenez pas du temps quotidiennement actuellement avec le Seigneur, je veux vraiment vous encourager, non pas à le prendre comme un fardeau, non pas le prendre comme un fardeau de culpabilité, mais comme un moyen que Dieu nous a donné d'aller puiser dans la grâce de l'Évangile. Vous savez, pendant des siècles, la seule manière d'entendre la Bible, c'était dans des réunions publiques comme celle-là. Premièrement, parce que les gens ne pouvaient pas l'apporter chez eux. Et deuxièmement, la majorité des gens ne pouvaient pas lire. Et donc, c'était un livre public et c'est pour ça que c'est approprié pour nous de prêcher la parole de Dieu, de la lire ensemble. C'est toujours un livre de lecture publique. Mais pendant des siècles, en Israël, le roi avait sa copie de la Bible. Il devait faire sa copie du texte de Dieu, de la parole de Dieu chez lui et la lire tous les jours. Et donc, le privilège qui nous est offert à nous, c'est un privilège de roi. C'est le privilège d'aller entrer dans la présence de Dieu quotidiennement et simplement dire au Seigneur, « Seigneur, tu es le pain de vie, Seigneur Jésus, et j'ai besoin d'aller puiser à ta grâce tous les jours. J'ai besoin de me nourrir tous les jours, d'aller vers toi. » Et donc, si c'est difficile pour vous d'être fidèle, d'être régulier, ne le prenez pas comme un fardeau, comme un devoir religieux, mais comme une opportunité, une grâce de pouvoir encore une fois vous approcher de Dieu et entendre ce qu'il veut vous dire par sa parole et par son esprit. Alors, je veux vous encourager tout simplement à reprendre le pas, à prendre un signet, puis à lire tranquillement un ou deux chapitres par jour dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Il me semble que j'avais une autre chose que je voulais mentionner. Oui, une requête de prière. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble pour Joanne, qui n'est probablement pas ici ce matin, Joanne Papillon, Provencher. Son père est dans ses derniers milles, je m'excuse de le dire comme ça. Et son père est chrétien, mais ce n'est pas facile. Il vit quand même beaucoup d'angoisse. Et donc, on a parlé avec Joanne cette semaine. Elle passe beaucoup de temps à voyager là-bas à Princeville pour être auprès de sa mère et auprès de son père. Et donc, elle demandait qu'on puisse prier pour elle. Prier pour elle, pour les filles, prier pour la famille, prier pour son père aussi, que Dieu vienne lui accorder sa paix et sa grâce à travers ce qu'il est en train de vivre actuellement. Que le Seigneur prépare son cœur à entrer dans sa présence, puisqu'il est chrétien, il croit en Jésus-Christ, et il a placé sa foi en Jésus-Christ. Alors j'aimerais ça, qu'on puisse se courber ensemble, qu'on puisse prier pour Joanne et prier pour son papa. Seigneur Jésus, nous venons devant toi ce matin et je m'adresse à toi parce que tu es le sauveur du père de Joanne. Tu t'es fait connaître à lui. Il a entendu ta voix et ton esprit habite en lui. Tu es son Seigneur et il semble que sa place est prête. Il semble que le moment approche où il va traverser, Seigneur, ce grand voile pour aller vers toi. Pourtant, Seigneur, il y a encore des inquiétudes, des craintes, des peurs dans son cœur et on comprend tellement cela, Seigneur. Nous marchons par la foi ici-bas. Nous marchons par la foi que tu es bien présent, bien vivant dans nos vies. Nous voyons ton œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, dans celles de nos enfants et pourtant nous avançons par la foi, Seigneur. Mais bientôt, très bientôt, son Père te verra. Et il entrera dans ta grâce pour l'éternité. J'aimerais te demander de venir apaiser son cœur et son âme, Seigneur. afin qu'il puisse s'abandonner entièrement entre tes mains, sachant que tu es celui qui a donné sa vie en sacrifice pour son salut. Et que si tu as été fidèle pour te donner sur cette croix, tu seras fidèle pour l'accueillir, Seigneur, de l'autre côté. J'aimerais te prier pour Joanne, pour les filles, pour la famille. Mets ta main, Seigneur, sur elle dans ce moment d'épreuve, ce moment épuisant aussi, où elle est plus isolée de sa famille spirituelle ici. On te demande, Seigneur, de les bénir, de les fortifier et de nous aider en tant que famille de Dieu à être là, Seigneur, à être là près d'elle. Père, j'aimerais te prier pour notre assemblée. J'aimerais te prier pour notre témoignage, Seigneur, comme Esther qui a eu cette grâce. C'est vraiment une grâce qui vient de toi. Cette dame qui l'a accostée à cause de ses broches, Seigneur. Et ça a conduit à une discussion sur l'Évangile et peut-être, qui sait, à une amitié, Seigneur, vers l'Évangile. Je te prie, Seigneur, pour notre Église. Apprends-nous à faire des disciples de toutes les nations. Apprends-nous à aller, Seigneur. Apprends-nous à vivre l'Évangile devant nos voisins, devant nos amis. Seigneur, que notre vie demande l'explication de l'Évangile. Que notre vie les intrigue, Seigneur. Notre bonté, notre générosité, notre patience, notre don de soi, notre paix, notre calme, notre repos en toi, dans notre foyer, dans nos relations de couple, avec nos enfants. Que notre vie demande l'explication de l'Évangile, Seigneur. J'aimerais te prier pour nos enfants, ceux de nos enfants qui n'ont pas encore pris une décision pour toi, Seigneur Jésus. Ceux qui sont partis et qui errent actuellement dans le monde, qui ont entendu pourtant l'Évangile tant de fois. Seigneur, nos cœurs pleurent pour nos enfants. Nos cœurs pleurent, Seigneur, pour ces enfants qui sont en train de se rendre la vie dure sans toi, en train de jouer avec leur éternité sans toi, Seigneur. Et plusieurs d'entre eux sont engagés dans un processus d'autodestruction parce que le péché détruit, c'est un mauvais maître. Et nous voulons te demander, Seigneur, de nous accorder la grâce d'avoir un bon témoignage envers eux. Qu'ils puissent, Seigneur, comparer notre vie et celle que le monde leur offre, et Seigneur, arriver à la seule conclusion logique et sensée. Suivre Jésus-Christ. Nous voulons te prier, Seigneur, pour ceux et celles de l'Assemblée qui sont retenus par la maladie. On pense à Irène, on pense à Diane. On pense, Seigneur, à plusieurs personnes qui sont retenues par la maladie chez eux, chez elles. Je pense à Madame Martin, Seigneur, qui est vieillissante. Console-les, Seigneur, que ce matin, alors qu'elles aimeraient être avec l'Église, elles puissent, Seigneur, savoir ta présence, vivre ta présence avec elle, avoir un bon temps avec toi et, Seigneur, être en contact constamment cette semaine avec l'Église. Enfin, Seigneur, j'aimerais te prier pour nous ce matin, alors que nous sommes placés ici devant ta parole. Viens nous rencontrer. Viens nous parler par ton esprit, Seigneur. Viens nous parler de toi, Jésus-Christ, de ta grandeur, de ta beauté. Et viens transformer nos vies à ton image, Christ. C'est en Jésus que nous te prions, Père. Amen. Amen. Alors ce matin, comme je l'avais mentionné la semaine dernière, je vais survoler un long passage. Si vous voyez les références, d'ailleurs ceux qui sont abonnés à la liste de courriels, vous avez déjà les références bibliques, mais on va survoler un passage qui commence dans Matthieu 26, 47 et on va aller jusqu'à 27, 26. Et pour cette raison, je ne vais pas vous lire tout le passage biblique ce matin. Mais donc, nous allons couvrir cette toute l'arrestation, en fin de compte, de Jésus-Christ jusqu'au moment où il est livré aux soldats pour être crucifié. Alors, à partir du moment où Judas vient dans la nuit trahir Jésus, le livrer littéralement à une foule, Jésus va aller comparaître devant le Sanhédrin. Jésus va être livré ensuite de ça à Ponce Pilate, le gouverneur romain, qui lui, à son tour, va le livrer aux Romains. Et donc, on couvre tout cet espace-là, toute cette période-là qui est assez longue. Vous avez déjà vu à la télé ou dans des reportages, j'ai cherché la vraie traduction française, mais il semble qu'il n'y en a pas. On dit, en général, on appelle ça du crowd surfing. Vous avez déjà vu ça? Et puis, sur Wikipédia, on m'a dit au Québec, on appelle ça du body surfing. Fait que c'est la traduction québécoise du crowdsurfing, du body surfing. Vous avez déjà vu ça lorsque quelqu'un va comme ça, tout simplement, il y a une foule dans un concert rock, et puis il y a une personne comme ça qui va s'offrir littéralement à la foule, et la foule va commencer à le porter à bout de bras. Et cette personne-là va être déplacée par la foule. C'est assez fou, j'avoue. Je ne suis pas certain que j'aurais le guts d'essayer ça. C'est pas du parachute, mais quand même. Vous savez, j'ai le privilège de passer beaucoup de temps à étudier les passages, à lire le texte, à relire le texte, à relire le texte. Et lorsqu'on lit comme ça un passage de nombreuses fois, à un certain moment donné, il y a d'autres éléments qui étaient là dans l'idée de l'auteur qui ressortent que tu ne vois pas dans une première lecture. Et souvent, vous me voyez en train d'exposer les Écritures par petites sections. Parce que je veux aller voir, on veut aller voir ensemble c'est quoi l'idée principale. Qu'est-ce que l'auteur est en train de dire ici et l'appliquer à nos vies. Mais parfois, il y a des idées qui sont plus larges que ça et qui couvrent un ensemble plus large que ça et qui ressortent du texte. Et lorsqu'on prend le temps de lire à plusieurs reprises ce long passage à partir du moment où Judas livre Jésus à la foule des gens qui sont venus, qui ont été envoyés par les chefs religieux, jusqu'au moment où Pilate va livrer Jésus aux bourreaux qui vont aller le crucifier, il y a quelque chose qui ressort, qui est une intention de Matthieu, un message que Matthieu veut nous faire passer lorsqu'on est en train de lire ce long passage-là. Il y a un mouvement. Littéralement, quand on le relit, et je vais essayer de vous l'illustrer ce matin, on sent un mouvement qui se passe. Il y a une espèce de mouvement frénétique à travers lequel Jésus va être porté, un peu comme avec le crowd surfing, dans une espèce de frénésie. Jésus va être porté jusqu'à la croix et littéralement, les gens vont se passer Jésus de main en main jusqu'à ce qu'il soit apporté à la croix. Et ça, ça ressort lorsqu'on lit l'ensemble du passage, comme si Jésus était porté de main en main jusqu'à la croix. On se remet Jésus les uns aux autres. Jésus est passé comme ça, par en avant, jusqu'à ce qu'il arrive au moment de la crucifixion. Et tout ceci se fait dans une complicité consciente ou non. De la même manière qu'on va voir dans ces espèces de phénomènes-là où tout le monde doit embarquer, parce qu'évidemment, si je regarde ça passer comme ça, les deux mains dans le dos, il y a quelque chose qui va se passer, n'est-ce pas? Tout le monde doit embarquer. Eh bien, il y a cette espèce de mouvement dans le passage où il y a cette complicité de tellement de personnes, complicité consciente ou non, mais tout le monde va dans le même sens pour amener Jésus jusqu'à la croix. Et tout ça a commencé dans Matthieu 26, 47, 48, avec Judas. Alors, regardez avec moi Matthieu 26, 47, 48, 49. Comme il parlait encore, Jésus est dans le jardin de Gethsémané. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des douze, arriva. Et avec lui, une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Saisissez-le. » Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi. » Et il lui donna un baiser. Judas vient vers Jésus pour le livrer à la foule des gens qui avaient été envoyés par les souverains sacrificateurs, par les anciens du peuple. Alors nous avons ce disciple de Jésus, celui que Jésus appelle encore son compagnon, son ami. Vous avez ce disciple de Jésus qui part, qui démarre une longue chaîne qui va être continue jusqu'à la croix, d'accord? Et cela commence avec Judas ici, qui va partir, cette longue chaîne de personnes qui vont conduire Jésus jusqu'à la croix. Donc, Judas livre Jésus entre les mains de la foule qui a été envoyée par les chefs du peuple, et ceux-ci vont conduire Jésus auprès du souverain sacrificateur, des anciens du peuple qui sont réunis. Les chefs du peuple, eux, vont faire un procès bidon, un procès qui n'a absolument aucun bon sens. Ils vont faire comparaître des faux témoins et en fin de compte, c'est même Jésus qui va leur donner l'argument final. Avec tout ce qu'ils essaient de faire, ils n'arrivent pas à bout de ça. Et c'est Jésus qui va leur donner l'argument final, qui va leur permettre d'accuser Jésus d'être en train de faire un complot politique pour essayer de libérer Israël des Romains. C'est comme ça qu'ils vont le faire passer, parce que Jésus reconnaît qu'il est le Messie, qu'il est le sauveur des Juifs. Et donc, il pourrait y avoir une menace. S'il est le sauveur, il vient sauver de quoi? Sauver des Romains qui sont en train de dominer actuellement le territoire des Juifs. Et donc, Jésus, peut-être, serait une menace politique. Jésus leur donne l'argument pour qu'ils puissent faire comparaître Jésus devant le gouverneur romain. Alors, le souverain sacrificateur et tous ceux qui sont avec lui ne croient pas cela. C'est important de réaliser ça, d'accord? Vraiment, le souverain sacrificateur ne pense pas que Jésus est une menace pour les Romains. Il ne croit pas cela. En fait, il ne croit pas qu'il est le Messie. Ils ne reconnaissent pas en lui le Messie. Mais Jésus les dérange. Jésus est un ennemi personnel et ils veulent se débarrasser de lui. Alors, ils vont remettre Jésus à leur tour entre les mains du gouverneur romain. Matthieu 27, 1 et 2. Matthieu 27, 1 et 2. Dès que le matin fut venu, le procès se passe dans une nuit, tout se déroule très, très, très rapidement. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors, Judas livre Jésus aux chefs religieux, puis les chefs religieux livrent Jésus au gouverneur romain. Vous voyez, le mouvement est en train de se faire. Tout le monde est en train de collaborer dans ce processus-là. Ponce Pilate est pris avec Jésus. Ponce Pilate n'est pas intéressé du tout par le personnage. Il n'y a pas de guéguerre entre lui et Jésus comme il y en a entre les chefs religieux et Jésus. Mais Ponce Pilate doit gouverner et donc il est pris avec Jésus et il doit décider ce qu'il va faire avec lui. Alors, il fait comparaître le prisonnier devant lui, il l'interroge et puis il lui dit « Est-ce que tu es le roi des Juifs? » Jésus reconnaît, il l'admet, il dit « Tu l'as dit. » Bon, peut-être qu'il y a matière à l'accuser. Peut-être que, je veux dire, s'il prétend vraiment être le roi des Juifs, il est une menace pour Rome. Le problème, c'est que Jésus est devant lui seul, il n'y a pas d'armée avec lui, totalement passif, enchaîné, un agneau qu'on mène à la boucherie. Et Pilate lit bien ça, puis il dit, une menace pour Rome? Non, peut-être un cinglé. Pas une menace pour Rome. Et pour compliquer les choses, lorsque Pilate commence à poser des questions, faire exposer les accusations, cet homme-là ne se défend pas. Il n'essaie pas de se justifier. Et ce qui ressort de ça, c'est qu'il y a quelque chose de profondément faux dans ce qui est en train de se dérouler. Pilate est un politicien expérimenté. Il comprend, il saisit la magouille qui est en train de se jouer là. Et donc, Pilate a un dilemme. Parce que d'une part, cet homme prétend être le roi des Juifs et le souverain sacrificateur essaie d'insinuer qu'il pourrait être une menace peut-être pour les autorités romaines, mais Pilate voit bien que ce n'est pas le cas. Il n'est pas menaçant du tout. Et non seulement ça, mais cet homme-là semble tellement juste. Ça ne semble pas être un homme tout croche. Il n'a pas de matière pour le condamner. Pilate ne voit aucune faute, aucun crime chez Jésus. Il n'a pas de raison pour le faire condamner. En fait, Matthieu nous dit qu'à ce point-ci, Pilate, ça fait quelque temps qu'il discute, il a entendu les accusations et il a bien mesuré les choses. Et Matthieu nous dit que Pilate a compris que les chefs des Juifs sont en train de tenter de le manipuler. Les chefs des Juifs essaient de se servir de l'autorité romaine pour se débarrasser d'un ennemi personnel. Et Pilate a compris que ces gens-là sont en train d'essayer de le manipuler pour faire mourir un innocent et que c'est par envie qu'ils sont en train d'agir. Matthieu 27, 18, regardez le verset 18. « Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. » Pilate voit bien dans leur jeu, il comprend ce qu'il en est, il comprend que l'homme qui est devant lui n'est pas une menace pour Rome, c'est un juste qui est devant lui. Pire encore, Matthieu nous apprend que pendant que Jésus est en train de siéger devant lui, en fait, pendant que Jésus est en train de se présenter devant lui et qu'il est en train de le juger, son épouse, l'épouse de Pilate, aurait été avertie possiblement par Dieu dans un songe, quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel. Et son épouse envoie rapidement quelqu'un parler à Pilate pendant qu'il est en train de faire ça pour lui dire... Il ne faut pas que tu aies ce sang-là sur les mains. C'est un juste que tu risques de condamner. Ne condamne pas cet homme-là. Matthieu 27, 19, pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Ne te rends pas coupable de sa mort, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Pilate est là, il voit le jeu politique qui est en train de se jouer, comment les chefs des Juifs essaient de tirer les ficelles. Il comprend que cet homme est juste. Il a un avertissement divin, surnaturel. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il est censé juger selon la justice. Il est là pour représenter la justice romaine. Il sait que la cause est portée devant lui, que la cause qui est portée devant lui est injuste. Il sait qu'il se fait manipuler, mais Pilate va suivre le mouvement. Il va suivre le mouvement et à son tour, il va passer Jésus à quelqu'un d'autre. Et cette fois-ci, ça va être la dernière livraison, si je peux le dire comme ça, puisque Pilate va livrer Jésus à ses bourreaux, qui, eux, vont le mettre à mort. Il se trouve une petite manœuvre politique et il se trouve à libérer un autre prisonnier qui était probablement coupable et pas nécessairement un homme juste dans ce cas-là. Et après avoir consulté la foule, Pilate livre Jésus pour qu'il soit crucifié. Matthieu 27, 26. Alors Pilate le relâcha Barabbas. Après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Et à ce point-ci, on peut dire que la livraison est terminée. Jésus a été livré pour sa crucifixion. Judas a livré Jésus aux chefs religieux. Les chefs religieux ont livré Jésus à Pilate, le gouverneur romain, et Pilate a livré Jésus à ses soldats pour qu'ils le crucifient. Et lorsque la foule a été consultée, la foule qui avait été gagnée par les chefs religieux a embarqué à fond dans la frénésie. Et c'est pour ça que j'aime cette image-là, parce qu'il y a cette frénésie à ce moment-là. Écoutez ce qui est dit au verset 21, Matthieu 27, 21. Le gouverneur, prenant la parole, il s'adresse à la foule à ce moment-ci, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus? » Ils répondirent « Barabbas! » Pilate leur dit « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ, votre Messie, votre Sauveur? » Tous répondirent « Qu'il soit crucifié! » Le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait? » Ils crièrent encore plus fort « Qu'il soit crucifié! » Voyez-vous, c'est un mouvement rapide. Tout ça se passe dans le moment d'une nuit, d'un début de journée. Tout va très, très rapidement. C'est fou. Et chacun participe. Chacun donne un coup de pouce. Chacun a participé à amener Jésus jusqu'à la croix. Et tout ceci s'est passé rapidement dans une espèce de folie. Une folie où plusieurs pressentent qu'il y a quelque chose de faux là-dedans. Plusieurs pressentent qu'il y a quelque chose de profondément injuste dans ce qui est en train de se passer, mais tout le monde embarque. Tout le monde est complice à sa manière, soit en livrant Jésus de main en main, soit en criant « Crucifie-le! » Tout le monde est complice. Et je trouve que cette image-là, c'est celle qui m'est venue lorsque j'étais en train d'étudier le passage de ces espèces de phénomènes de crowd surfing. Mais je trouve que ça illustre cette espèce de frénésie qui était là, où à plusieurs moments, des acteurs dans cette situation-là se disent « il y a quelque chose qui cloche là-dedans ». Et pourtant, ils embarquent, ils poussent, ils continuent. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui cloche, mais personne ne s'oppose. Tout le monde embarque. La foule suit, influencée par quelques leaders. Tout le monde est complice. Tout le monde est complice. Même ses disciples, dans un certain sens. Même les disciples de Jésus sont complices, dans un certain sens. Matthieu nous montre que ses disciples ne viennent plus à son secours. On l'a vu dans les dernières semaines, et lorsqu'on relit le passage, c'est évident que Matthieu veut mettre ça de l'avant. Judas le trahit et le vend. Pierre le renie. Pierre va jusqu'à dire « Je ne connais pas cet homme. » Il le jure et le reste des disciples s'enfuit. Vous voyez, il y a cette espèce de complicité dans ce mouvement-là, dans cette foule où tout le monde est complice. Soit activement, soit passivement, soit en plantant un clou, en criant une accusation, soit en se taisant et en détournant la tête pour ne pas prendre la défense de Jésus. Tout le monde est complice, passivement ou activement. Le sort de Jésus est rapidement déterminé. Et pourtant, tout le long du processus, Matthieu veut nous montrer qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Plusieurs des acteurs qui sont complices, soit en disant rien, soit en reniant Jésus, soit en l'accusant, soit en le condamnant, soit en le frappant, plusieurs d'entre eux pressentent qu'il y a quelque chose de faux dans tout cela. Et Matthieu veut le mettre de l'avant, il veut le souligner. Pierre va pleurer abondamment d'avoir renié Jésus. Judas va se pendre parce qu'il réalise qu'il a péché en livrant le sang innocent. Et donc, il sait qu'il y a quelque chose de faux dans tout ça. Les principaux sacrificateurs, on n'a pas pris le temps d'exposer vraiment cette partie-là du passage, mais les principaux sacrificateurs, au sommet de l'hypocrisie, ne veulent pas remettre l'argent que Judas a rapporté dans le trésor du temple parce que c'est de l'argent sale à présent. Mais je croyais que vous étiez en train de sauver littéralement de sauver Israël d'un faux docteur. L'épouse de Pilate le met en garde de ne pas s'en prendre à ce juste. Et Pilate, enfin, essaie de se disculper, de mettre à mort ce juste en se lavant les mains publiquement. Mais dans le fond, personne n'a vraiment bonne conscience dans cette histoire. Sinon, la foule qui suit les leaders. Personne n'a bonne conscience. Tous sont coupables, d'une manière ou d'une autre, d'avoir participé à ce mouvement qui a conduit Jésus jusqu'à la croix. Et ça, c'est un des thèmes que Matthieu veut faire ressortir ici. Matthieu veut nous montrer la complicité passive ou active de tous ces intervenants pour porter Jésus jusqu'à la croix. Judas a livré Jésus aux chefs religieux. Les chefs religieux ont livré Jésus à Pilate. Pilate a livré Jésus au bourreau, jusqu'à la foule qui a approuvé et aux disciples qui ont trahi, renié, abandonné Jésus. Matthieu nous dépeint une scène où tout le monde est coupable. Et il veut le souligner, il veut le mettre en évidence, entre autres en utilisant trois fois le même verbe. J'ai fait exprès pour répéter « livrer, livrer, livrer ». Matthieu utilise intentionnellement trois fois un verbe grec, « paradidomi ». Chaque fois qu'on a livré, c'est ça qui est là. Et Matthieu veut souligner ce mouvement-là qui est en train de se produire. Il veut souligner le fait que tout le monde est coupable. Et si je m'arrêtais ici dans mon récit, je ne vous aurais pas présenté l'Évangile. D'accord? Si je m'arrêtais ici, ce ne serait pas l'Évangile que je vous présenterais. Nous n'aurions pas vu encore, et nous n'avons pas vu encore, la beauté de l'Évangile. Ces gens sont coupables, et Matthieu nous le montre. Et dans un sens, Matthieu veut que nous nous identifions avec la foule. C'est ça que Matthieu est en train de faire. Hein? Matthieu aurait pu mettre l'accent sur les méchants chefs religieux ou les méchants romains, mais tout le monde y passe, même ses intimes, même ses amis. Et donc, ce que Matthieu veut, c'est que nous puissions nous identifier, nous, comme lecteurs, à une ou l'autre de ces personnes-là. Parce que c'est vrai que nous avons tous été coupables de mépriser Dieu ou de mépriser Jésus-Christ d'une manière ou d'une autre. Certains d'entre nous combattions activement le christianisme. On méprisait ouvertement Jésus-Christ avant de connaître Jésus-Christ. D'autres d'entre nous, c'était simplement par ignorance. Mais pas un jugement éclairé, tout simplement cette idée que on s'en fout de Dieu. J'ai pas besoin d'avoir Dieu dans ma vie qui vient commencer à réglementer ma vie. J'ai pas besoin d'avoir Jésus-Christ dans ma vie. C'est des vieilles histoires de grand-mère, cette affaire-là. Et donc, chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, nous avons méprisé Dieu et méprisé Jésus-Christ, soit activement, agressivement, soit passivement. On est passé à un autre appel. Et Matthieu veut qu'on puisse s'identifier avec certains des acteurs dans ce récit, avec certaines de ces personnes, et qu'on puisse reconnaître que nous sommes pécheurs parce que nous avons tous méprisé Dieu et Jésus-Christ d'une manière ou d'une autre. Maintenant, si je m'arrête ici, ça, c'est pas l'Évangile. Parce que tout ce qu'on a, c'est la culpabilité. Et Matthieu fait une belle démonstration que tout le monde a été coupable à ce moment-là de la crucifixion de Jésus-Christ. Mais je ne vous ai pas présenté l'Évangile parce que je n'ai que la culpabilité des pécheurs que nous sommes, comme toutes ces personnes-là qui étaient là. Le mot Évangile en français, il nous vient directement du grec. Le mot grec, c'est Evangelion. Le mot grec veut dire bonne nouvelle. Et ici, je n'ai pas de bonne nouvelle d'annoncer. Je n'ai qu'une mauvaise nouvelle. Dieu, le Fils de Dieu, qui était venu pour sauver les hommes, a été rejeté par les hommes et ils l'ont livré au bourreau pour qu'il soit crucifié. Nous sommes tous pécheurs. C'est tout ce qu'on a jusqu'à présent. On n'a pas une bonne nouvelle. Nous avons une scène de culpabilité où tous ont été complices de cette folie meurtrière et où ils ont crucifié le Messie. Jésus était tellement bon. Lisez les évangiles. Comment ils ont pu se rendre là? Parce que leur cœur a été dévoilé tout simplement. Maintenant, si je m'arrête ici, je ne présente pas bien le message de Matthieu non plus. Et je ne suis pas en train de faire honneur au texte de Matthieu si je m'arrête sur cette scène, et pourtant je pense que Matthieu voulait souligner cela. Je ne rends pas bien l'idée de Matthieu parce que si je veux rendre l'idée de Matthieu, il faut que je remonte un petit peu plus tôt dans le temps. Voyez-vous, en réalité, ce mouvement-là que je viens de décrire avec Judas qui va livrer, les chefs religieux qui vont livrer au gouverneur, le gouverneur romain qui va livrer au bourreau, ce mouvement-là n'a pas commencé avec Judas. Et si je dis que ça a commencé avec Judas, je ne fais pas honneur au texte et à l'évangile de Matthieu. Je ne suis pas en train de rendre l'idée de Matthieu. Le mouvement a commencé beaucoup plus tôt et on pourrait aller jusqu'à dire que c'est Jésus lui-même qui a initié le mouvement. Tournez avec moi dans Matthieu 17, verset 22. Matthieu 17, 22. Matthieu 17, 22, 23. C'est Jésus qui va prendre la parole. Voici ce qu'il va leur dire. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme, Jésus utilisait communément ce titre-là pour parler de lui-même, le Fils de l'homme doit être livré, encore une fois le verbe paradidomi, le même verbe qui est là, entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Matthieu nous dit que ses disciples furent profondément attristés à ce moment-là. Le même verbe paradidomi, le Fils de l'homme doit être livré. Matthieu 20, 17 et 19. Tournez avec moi dans Matthieu 20, versets 17 à 19. Et là, c'est important parce qu'on s'approche de Jérusalem. Et on est en train de voir ensemble que celui qui a initié ce mouvement, qui va le conduire jusqu'à la croix, c'est Jésus lui-même, en fait. Matthieu 20, 17 à 19. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il est en train de se rendre à l'endroit où il va être crucifié. Il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré, encore une fois, paradidomi, le même verbe grec, aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. » Voyez-vous, ce mouvement complètement fou des dernières heures où on voit cette complicité agressive, ce mouvement-là avait été initié par Jésus. Un petit peu de la même manière que le crowdsurfing commence. Vous savez comment ça commence, hein? Il faut que la personne qui va être transportée vienne devant la foule et qu'elle s'offre elle-même à la foule. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. C'est Jésus qui a initié ce mouvement qui allait le conduire à la croix. Il s'est rendu consciemment lui-même à Jérusalem. Et lorsqu'il est arrivé devant cette foule qui allait être emportée par une folie meurtrière tellement injuste et tellement tout croche et des procès bidons, lui-même s'est offert à cette foule qui allait le transporter jusqu'à sa crucifixion. Et c'est ça l'Évangile. Voyez-vous, c'est ça l'Évangile. C'est que Jésus-Christ ne s'est pas fait arracher à la vie. Jésus-Christ, on ne lui a pas enlevé la vie. Jésus-Christ n'est pas quelqu'un qui a vu un projet politique mal tourné. Jésus-Christ, consciemment, venait s'offrir à ce mouvement, à cette folie qui allait le conduire jusqu'à la croix. Parce que Jésus venait s'offrir consciemment en sacrifice pour nos péchés. Tous ceux qui l'ont crucifié sont coupables. Les disciples sont coupables. La foule est coupable. Les chefs religieux sont coupables. Les Romains sont coupables. Tout le monde est coupable. Mais ce qui est en train de se passer là, c'est un sacrifice volontaire de la part de Jésus-Christ qui est venu s'offrir en sacrifice pour nos péchés. Et au-delà de cette culpabilité de tous ces intervenants à ce moment-là, il y a ce règlement de compte cosmique qui est en train de se produire, où Jésus-Christ va être conduit jusqu'à la croix, et sur cette croix, c'est un règlement de compte avec le péché et avec Dieu qui va se passer. Parce que Christ va prendre sur la croix, lui le juste, tout le monde pressentait qu'il était juste. Les hommes voyaient bien que cette mort était injuste. Mais lui, le juste, va devenir péché pour nous. Il va prendre sur lui le châtiment qui nous donne la paix. Voilà la gloire et la beauté de l'Évangile. C'est que Jésus-Christ s'est offert lui-même. Maintenant, j'aimerais faire un autre parallèle avec notre époque. Parce que les choses n'ont pas tellement changé. Comme avec cette foule à l'époque qui a été complètement folle, qui a été emportée, il se passe la même chose aujourd'hui. Regardez la folie de cette foule à la fin de notre section dans les versets 25, Matthieu 27, 25. Quand tu connais Dieu et tu lis ce verset-là, tu trembles. Tu ne peux pas imaginer que quelqu'un soit assez stupide, assez innocent et épais pour dire quelque chose de semblable. Matthieu 27, 25, il est le peuple répondit, ils sont en train de s'adresser au gouverneur romain qui dit, « Mais qu'est-ce que je vais faire avec Jésus? Crucifie-le! Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants! » La foule est coupable. La foule est coupable, mais en même temps, comme ça se passe encore aujourd'hui, la foule a suivi quelques chefs religieux qui l'ont manipulé. Cette foule-là ne pourra jamais se présenter devant Dieu et dire « Ah, mais on ne savait pas ». Non, ils ont invoqué littéralement un jugement de Dieu sur eux-mêmes s'ils n'étaient pas en train de faire la bonne chose. Mais comme ça se passe aujourd'hui dans notre société, la foule des gens qui vous entourent suit quelques personnes influentes à travers ce qui est communiqué dans les médias sur Jésus. Ils ont écouté un mauvais film qui était tiré d'un très mauvais roman, le Da Vinci Code, la mauvaise littérature, de la mauvaise histoire, puis de la très mauvaise théologie. Et puis, ils ont appris qui était Jésus en regardant Tom Hanks sur un écran de cinéma. Vous voyez, cette foule, lorsqu'on commence à parler avec elle, avec les gens au travail, Alexandre me parlait d'un voisin. Lorsqu'on commence à parler avec eux, on découvre qu'il n'y a pas de matière. Pour la majorité d'entre eux, ils sont comme cette foule à ce moment-là, qui tout simplement a participé à tasser Jésus. Ils ont suivi le mouvement et ils ont évacué Jésus de leur champ de vision. Mais tout ça n'est pas documenté, c'est pas réfléchi. Ils suivent quelques personnes dans les médias qui trouvent que c'est de bon goût de se moquer de la foi, de se moquer de Jésus-Christ, de se moquer de la Bible. Et pourtant, il n'y a pas de chair, il n'y a pas de matière à ce qu'ils sont en train de dire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette foule? Ces gens qui nous entourent, qui sont coupables. Ils sont coupables. Vous savez, on vit ici en Occident, il n'y a personne qui va pouvoir dire qu'il n'a jamais entendu parler de Jésus. Et nulle part sur la terre, personne ne va pouvoir dire qu'il n'a jamais eu la pensée de Dieu dans son cœur. Ils sont coupables. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que tous ces gens-là qui étaient coupables ce jour-là étaient aussi pardonnables. Ils étaient pardonnables parce que Jésus-Christ venait s'offrir en sacrifice. C'était possible qu'ils sortent de leur folie et qu'ils soient pardonnés à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Tournez avec moi dans le livre des Actes. Actes chapitre 2. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, versets 22 et suivants, on va retrouver un Pierre coupable d'avoir renié son Seigneur, d'avoir renié Jésus-Christ à trois reprises, d'avoir juré qu'il ne connaissait pas Jésus-Christ. On va retrouver ce Pierre devant la foule de Jérusalem. Pierre prend pour acquis qu'une partie de cette foule faisait partie, composait aussi la foule de ceux qui ont crié « Crucifie-le et que son sang retombe sur notre tête et sur celle de nos enfants ». Pierre prend ça pour acquis et ça sort dans son discours. Alors, on retrouve ce même Pierre qui a renié Jésus-Christ, qui était coupable de ne pas avoir pris la défense d'un merveilleux sauveur comme Jésus, en train d'annoncer l'Évangile à une foule coupable d'avoir contribué, d'avoir approuvé la mise à mort d'un juste. Acte 2, verset 22, je m'excuse. Voici ce que Pierre dit. « Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, ce règlement de compte cosmique, vous l'avez crucifié. » Vous l'avez fait mourir par les mains des païens, des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Et Pierre continue dans son discours à leur démontrer que Jésus est bel et bien le Christ et que ce qui s'est passé, ce mouvement ce jour-là, cette folie meurtrière, était aussi dans les desseins de Dieu, dans les projets de Dieu. Regardez les versets 36 à 41. La fin du discours de Pierre. « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Verset 37, acte 2, 37. « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? » Parce qu'ils réalisent leur culpabilité, leur folie, leur bêtise. Et Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que notre Seigneur les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Tous les hommes sont coupables. Tous les êtres humains sur la terre sont coupables. Nous, on vit ici au Québec, le Seigneur nous a placés dans cette terre de mission ici au Québec. Et Dieu a placé des gens de cette foule-là autour de nous, ce sont vos amis, vos collègues de travail, nos voisins. Et ces gens-là, trop facilement, suivent le mouvement populaire d'évacuer Jésus de leur vie. Et par le fait même, ils se rendent coupables devant Dieu. Mais voyez-vous, ces gens-là suivent un mouvement populaire. Et la majorité d'entre eux ne connaissent rien de Jésus-Christ, sinon ce qu'ils ont vu sur un T-shirt. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller les voir et on va leur raconter l'Évangile. On va leur montrer ce juste qui a été mis à mort injustement. Nous allons ouvrir les Écritures avec eux et leur dire, mais que connais-tu de Jésus pour le mépriser si facilement? Qu'est-ce que tu sais de Jésus pour le prendre pour un hurluberlu? Tu as rencontré 2-3 chrétiens, tu les as trouvés flyés peut-être. Qu'est-ce que tu connais de Jésus? Laisse-moi te raconter son histoire et te montrer que ce juste-là a subi un procès injuste et que tous les gens qui l'ont mis à mort étaient coupables ce jour-là et que pourtant, ce n'était pas eux qui avaient initié le mouvement qui allait le conduire à la croix parce que ce juste-là venait s'offrir en sacrifice pour nos péchés. Et même si jusqu'à présent dans ta vie, tu as méprisé Jésus-Christ et méprisé Dieu et tu n'as pas voulu placer ta vie sous la direction de Dieu, de la même manière que cette foule et ses apôtres, ses disciples qui étaient profondément coupables d'avoir été complices de cette mise à mort, de la même manière que Pierre a annoncé l'Évangile après, il a été rétabli dans son ministère. Cette foule a pu se convertir sous le message de Jésus-Christ. C'est notre mission, les amis, de vivre l'Évangile devant les gens autour de nous et de les interpeller en leur disant, « Que connais-tu de Jésus-Christ pour le mépriser? » Parce que c'est un gars pas mal sharp qui s'est offert en sacrifice pour tes péchés. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je reconnais encore une fois que je suis aussi coupable que cette foule ce jour-là. Parce que longtemps, Seigneur, on m'avait parlé de toi, j'avais même chanté tes histoires à l'école du dimanche, mais je te méprisais, je te rejetais, je ne te laissais pas régner dans ma vie, Seigneur. Et Seigneur, je veux te confesser que les Québécois, pour toutes sortes de raisons, ont décidé de t'évacuer de leur vie, Seigneur. Mais ils ne te connaissent pas. Ils te méprisent sans te connaître, Seigneur. Et ils sont coupables, ô Dieu. Dans ta grâce, viens nous transformer, viens nous former, Seigneur, afin que nous ayons le courage de nous lever comme Pierre et de se présenter devant cette foule qui, une fois, a crucifié notre Seigneur, et qui pourrait peut-être s'en prendre à nous, se moquer de nous, nous mépriser encore une fois. Mais d'avoir le courage, comme ce Pierre, de se relever après tous nos échecs pour aller proclamer ce bel évangile du Fils de Dieu qui est venu sur la terre s'offrir volontairement à cette foule qui allait le mettre à mort pour le pardon de mes péchés. Ô, sois béni, Jésus. Tu es un sauveur merveilleux, Seigneur. Et c'est avec ma vie, avec mon cœur et avec mon sang, Seigneur, que je veux proclamer Jésus-Christ à une foule qui trop facilement t'évacue de sa vie. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Levez-vous, on va chanter ensemble la gloire de Dieu.